Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Je suis un métis de négrier et des véritables esclaves. Da Silva, c'est un négrier et Paraiso, un esclave qui s'est affranchi.
Moi, je suis Aguda à plusieurs titres. Par mon grand-père d'abord, qui est Carlos. Ma grand-mère maternelle est Aguda. Et ma maman, à moi, est aussi Aguda. Ma maman est de Souza. Alors, je suis environné, entouré d'Aguda.
Voilà. Mon aïeul, c'était Don Francisco Félix de Souza, que le roi d'Abomey a appelé Tchatcha Mito. Je suis une fille de Medeiros. Je porte mon nom de jeune fille, c'est Francisca de Medeiros.
Mon grand-père est venu de Bahia. C'était Amaral Venancio Saluciano. Arrivé au Dahomey, l'Est Dahomey, il a eu une femme, Aguda.
Histoire singulière que celle de ces affranchis, de ce petit-enfant d'esclaves, revenus sur la terre de leurs ancêtres après l'abolition de la traite négrière. Souvent, par la porte du non-retour que l'on n'était pas censé franchir à rebours.
Les Aguda, c'est une de nos vieilles histoires qui n'a rien à voir même avec ce que nous sommes au juste.
Karim Urbain da Silva, membre influent de la communauté Aguda installée à Porto Novo, la capitale béninoise.
Les Aguda, c'est la saleté. Quand on transporte les esclaves.
Les Aguda. C'est ainsi en tout cas qu'ils ont été désignés en fond, en Yoruba et en Mina, ces Béninois, Togolais, Ghanéens et Nigériens qui portent des patronymes d'origine portugaise. D'Almeida, de Souza et autres de Nascimento, mais qui font partie entière de la communauté béninoise.
Mon nom Gomez, d'après donc ce que je sais et les documents que j'ai, nous avons un ancêtre qui est d'origine portugaise et qui s'appelle Boaventura Gomes.
Dès le XVIe siècle, les Portugais qui intensifient leurs recherches des esclaves pour leurs colonies américaines vont installer des comptoirs pour s'approvisionner sur les côtes de l'or.
Mais c'est à Ouida qu'ont débarqué les premiers Européens.
Théophile Gomes, président de la société communautaire des Aguda de Ouida.
Dont les Portugais, les plus anciens, a débarqué parce qu'il y avait à Ouida un wharf. Donc, un accostement des bateaux, bon, pas accostement en tant que tel, qui restait au large et qui débarquait grâce aux chaloupes, aux pirogues que les autochtones leur amenaient. C'est parce que il y avait plusieurs comptoirs ici. Tous les forts européens étaient ici.
Ainsi, Ouida devient à la fin du XVIIe siècle une place forte où les prisonniers enlevés à l'intérieur des terres sont vendus aux négriers.
Il n'y a pas de vente, il y a d'échange.
Sa Majesté Dejalani Agoli Agbo, roi d'Abomey.
Vous savez que le royaume d'Abomey
est un royaume guerrier et il manquait certaines choses
telles que le tabac, les boissons alcoolisées et autres. Donc, les Blancs, ayant senti cela, sont entrés en négociation
par personne interposée
pour nous dire que
quand vous allez nous fournir des bras valides,
vous aurez tout dont vous avez besoin. Donc, c'est dans ce schéma-là que nos anciens rois, nos grands-parents, ont cédé à leur demande.
Une demande à laquelle ils ont consenti parfois sous la contrainte, mais souvent avec zèle.
Les gens sont aussi conscients de la gravité du phénomène que pour faire partir...
Gabin Djimassé, directeur de l'office de tourisme d'Abomey, chercheur historien béninois.
Les gens d'Abomey, pour la plage, pour la vente, ils quittent à 3h30 du matin, au premier chant du coq. Ni vu, ni connu. Personne n'est informé. Seul le roi est informé qu'il y a un détachement qui est en route pour la mer.
Celui qui est venu.
Karim Urbain da Silva, membre de la communauté Agouda.
Viens avec tout ce qui peut flatter, tout ce qui peut tromper. Et puis après, du tafta, hein, du gin. Alors, voyez bien, quand vous prenez goût, écoutez, vous acceptez ce qu'on vous propose. On vous propose de vendre vos frères. Mais pour les rois, mais ce sont les captifs des guerres qu'ils vendaient. Et non leur propre sujet. Donc, ben, mais il arrive parfois et que quand ils viennent, il arrive un bateau, par exemple, qui peut prendre 300 sujets et que le roi ne a trouvé que 140, 150, il dit, mais... Et le reste, il dit, tu vas attendre que je... Il dit, non, il voit qu'il ne peut pas attendre. Il dit, comptez-moi le nombre de... Allez, là. On compte, on voit, prenez le roi, ligotez-le. On prend le roi, on le ligote, les gens veulent réagir, on tue deux ou trois, ils sont tous soumis, on les embarque pour faire le plein.
Au départ, l'homme de Dahomey n'était pas pourvoyeur d'esclaves.
Gabin Djimas, directeur de l'office de tourisme d'Abomey.
L'homme de Dahomey a été victime d'une agression Yoruba depuis le règne du roi Agadia. Il a subi une agression Yoruba sous l'égide de l'armée du royaume de Kétou, où il était contraint de payer des tribus annuelles. L'élément le plus consistant de ces tribus, c'est 41 jeunes hommes et 41 jeunes filles. Et comme cela ne suffisait, à un moment donné, on lui a réclamé un de ses fils. Et c'est ce fils qui a séjourné pendant plus de 20 ans à Kétou, qui est revenu encore succéder à son père, le roi Tegbessou.
On faisait la guerre, on en ramasse beaucoup.
Les bras valides, on les
choisit,
on les met à leur disposition.
Sa Majesté de Djalagni Agoli Agbo, roi d'Abomey.
En compensation de ce dont je viens de citer, le tabac, l'alcool et autres.
Et ce commerce des esclaves va prendre de l'ampleur. Ouida devient une place forte de ce trafic d'hommes. C'est par milliers qu'ils arrivent de l'intérieur.
Une chose est de demander.
Gabin Djimas, directeur de l'office de tourisme d'Abomey.
Mais l'autre chose est de donner. On pouvait bien refuser. Mais on ne l'a pas fait. Encore que ce qu'on prenait en échange, c'était ridicule. Comme son nom le dit, c'est des pacotilles. Alors qu'un être, on ne peut pas apprécier sa valeur. C'est incommensurable. On ne peut pas.
Vous assumez ce que vos parents ont fait, en bien ou en mal.
Sa Majesté de Djalagni Agoli Agbo, roi d'Abomey.
Donc nous assumons que nos parents avaient mal fait, mais c'était
dans la compréhension de leur.
Parce que
s'il n'y a pas de vendeur, il n'y a pas d'acheteur. C'est eux qui ont eu l'idée.
Parce qu'ils étaient plus avancés que nous
dans la recherche.
Et ce qu'ils ont proposé, nous avons accepté.
Et les vendeurs ne savaient pas que le produit était vendable.
Gabin Djimas.
Il a fallu qu'on suscite en eux
ceux qui sont partis.
Professeur Noureni Tidiani Serpos, ancien ambassadeur du Bénin à l'UNESCO et ex-président du conseil exécutif de l'UNESCO.
Il y en a beaucoup qui n'étaient pas des esclaves. C'était des guerriers. C'était les meilleurs que nos rois ont vendus, les plus costauds, etc. Et moi, j'ai l'habitude de dire que ce sont les maigrichons comme moi qu'on a laissés sur la terre africaine. Et chaque fois, la prochaine fois, faites attention, regardez les Noirs américains. Vous verrez que ce sont les gens bien bâtis, très, très costauds, qu'on sélectionne et que l'on envoie là-bas. Et quand on regarde ça, on se dit, ce ne sont pas les plus faibles qui ont été choisis. Les femmes qui allaient là-bas et qui allaient donner des enfants pour augmenter la population d'esclaves, c'était les dames les plus solides.
Avant d'emprunter ce petit sentier de 4 km, ces millions d'hommes et de femmes qui avaient été arrachés par la force à leur famille étaient d'abord amenés place Tchatcha et proposés aux enchères aux négriers blancs. Au plus fort de la traite négrière, tous avaient un fort à Ouida. Les Portugais, les Français, les Britanniques et les Danois.
Le fort avait...
Bertin Calixte Biya, conservateur du musée d'histoire de Ouida.
Plusieurs rôles. Celui de la sécurité des marchandises et des esclaves, et celui de la défense. C'était le lieu où les esclaves étaient gardés avant le grand départ. Donc, les esclaves constituaient donc une marchandise assez précieuse et il fallait donc assurer leur sécurité. Et dans ce cadre, la première monture du fort avait donc des éléments de sécurité assez forts, à savoir un grand fossé qui entourait le fort. Et donc pour accéder au fort, il fallait utiliser un pont-levis. Ensuite, lorsque vous regardez les quatre coins cardinaux du fort, vous allez constater qu'il y a des tourelles qui sont montées par des canons. Et donc... dans ce contexte, il fallait donc assurer non seulement la sécurité des marchandises, mais la défense du fort contre toute attaque venant de l'extérieur.
Une fois la transaction faite, les esclaves marqués au fer en fonction de l'empreinte de l'acheteur étaient ensuite contraints de faire le tour de l'arbre de l'oubli. 9 fois pour les hommes, 7 fois pour les femmes. Le but étant de les amener à oublier leur pays et leur culture.
Sur la route, Il y a deux éléments très importants.
Professeur Noureni Tidiani Serpos, président de la Fondation panafricaine pour le développement culturel.
La porte du non-retour, les femmes vont faire le tour 7 fois, les hommes 9 fois, et on leur dit, c'est terminé, nous vous vidons de votre identité, vous allez oublier, vous ne reviendrez plus, etc. Et quand ils vont sortir de la case où ils attendent l'arrivée des bateaux, il y a un autre arbre, qui est l'arbre du retour, qui est à côté du mémorial de Zumbodi. Et là, tout le monde, quel que soit le sexe, va faire le tour 3 fois. Et on leur dit, là, pendant qu'ils font le tour, que on a vendu votre corps, mais on n'a pas vendu votre esprit. Vous reviendrez quand vous serez mort. Et c'est pour ça que la porte du non-retour s'est orientée de telle sorte que... Parce qu'à Haïti, par exemple, quand les gens meurent, on dit, ils disent, il est parti en Guinée. Il est retourné sur la côte de Guinée. Quand le souffle vient, le souffle doit traverser la porte du non-retour et arriver là où nous avons fait le mémorial de Zumbodji.
En gros donc, après avoir fait le tour de l'arbre de l'oubli pour effacer leur culture, leur patrimoine et leur passé, les esclaves vont ensuite être enfermés pendant plusieurs semaines, voire des mois, dans ce qu'on appelle la case de Zoumaï. Il s'agit en fait de plusieurs petites huttes dans lesquelles les esclaves sont entreposés en attendant l'arrivée des bateaux. C'est dans ce cadre où ils sont plongés dans une obscurité permanente afin de leur ôter tout point de repère et de les désorienter, limitant ainsi toute tentative d'évasion, qu'ils vont attendre le grand départ.
Et quand vous arrivez à Zumbodi, devant le mémorial...
Professeur Noureni Tidiani Serpos, ancien ambassadeur du Bénin à l'UNESCO et ex-président du conseil exécutif de l'UNESCO.
La place qu'il y a devant le mémorial, c'est là qu'on sélectionnait les derniers esclaves. Ceux qui sont susceptibles d'avoir le scorbut, ceux qui ne sont pas en forme, qui ne peuvent pas tenir les difficultés du voyage, c'est là qu'on les éliminait. C'est pour ça que nous avons construit le mémorial sur cette tombe commune.
Ceux qui vont survivre à ce traitement inhumain, à la famine, à la maladie, à l'insalubrité à la case de Zomaï, mais aussi à cette sélection drastique, vont à nouveau être soumis à l'ultime rituel de l'arbre de retour. Les esclaves y réalisent plusieurs cérémonies afin de s'assurer le retour de leur âme sur leur terre natale. Puisque, comme le disait l'auteur guinéen Birago Diop, les morts ne sont pas morts.
Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson sanglot. C'est le souffle des ancêtres.
Professeur Noureni Tidiani Serpos.
Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'eau qui dort, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts.
Extrait du poème de Birago Diop, les morts ne sont pas morts.
D'abord, au Maou, ils partaient.
Roi Dagbo Unon Una II, chef suprême vaudou.
Sous forme d'esclaves, qu'ils soient captifs, qu'ils soient achetés, quel que soit le titre qu'on leur donne, nos parents qui étaient véritablement consciencieux faisaient des rituels pour que ceux-là qui partent dans un monde où on ne sait doivent revenir. C'est là où on a érigé la place de la porte du non-retour qui était la place consacrée pour ces rituels.
Après tous ces rituels mystiques et religieux, cette fois-ci, c'est l'heure du grand départ qui passe par les 4 kilomètres de sentier, jusqu'à la porte du non-retour sur la plage. Étape la plus déchirante pour les esclaves. Les plus désespérés, qui croyaient comme le laissait penser une certaine rumeur qu'ils allaient être dévorés par les blancs, ingurgitaient du sable ou avalaient leur langue pour s'étouffer. D'autres choisissaient simplement de se jeter à la mer, préférant être mangés par le requin. Ils sont des millions à être ainsi partis d'ici et d'ailleurs sur le continent vers les Amériques pour servir dans les plantations de coton, de canne à sucre, bref, pour participer par la contrainte à la construction du Nouveau Monde et à l'enrichissement de l'Europe, du Brésil, des Antilles et des États-Unis. Venus de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne et pendant des siècles, ils ont vécu ensemble et conservé malgré la rudesse du maître, malgré la perte de leur nom et de leur identité, puisqu'on leur attribuait le patronyme de leur maître, quelques traditions, une partie de leur religion ancestrale. Et cela, malgré leur christianisation forcée. Et certains ont gardé au fil des générations une volonté farouche de retourner sur la terre natale pour le repos de leur âme. Il faut dire que sur place, à Ouida, pour éviter entre autres la colère de leur âme sur le chemin de retour, on a préparé les choses. On a aménagé et balisé le chemin pour que cette âme puisse retourner en paix, sans embûche, sans colère.
Quand les souffles arrivent, ce sont des souffles qui sont en colère.
Professeur Noureni Tidiani Serpos, ancien ambassadeur du Bénin à l'UNESCO et ex-président du conseil exécutif de l'UNESCO.
Et il ne faut pas symboliquement qu'ils rentrent sur la terre des aïeux avec cette colère. Donc, le mémorial, les souffles arrivent, passent par la porte du non-retour, arrivent au mémorial et ils voient là que, ah, on ne nous a pas oubliés. Et les souffles déposent leur colère avant de rentrer paisiblement dans la ville de Ouida.
Une occasion va être offerte à ces esclaves noirs libérés qui rêvent d'Afrique de revenir vivants sur leur continent. À partir du 19e siècle, avec l'abolition de l'esclavage au Brésil, s'amorce un curieux et inattendu mouvement d'arrivée de quelques hommes libres brésiliens, portugais en majorité, d'anciens esclaves affranchis sur les côtes du golfe du Bénin. Des affranchis qui vont considérablement modifier le cours de l'histoire du Dahomey, comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée aux Agouda. Restez à l'écoute et on se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur RFI. Archives d'Afrique revient très vite.
Archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Moi, je veux parler par exemple de mon arrière-grand-père. Lui, c'était d'abord un prince
Toyo, qui a été trahi par ses frères, le père vieillissant, il a été vendu au roi d'Abomé, qui l'a amené à Ouida, qui l'ont vendu au négrier. Et il s'est retrouvé au Brésil. Et c'était d'ailleurs lui le grand meneur des révoltes.
Ma grand-mère, c'est elle qu'on peut considérer comme vraiment celle qui représente la génération des Aguda. Parce qu'elle est née au Brésil et baptisée sous le prénom Valentina. Mais quand ils sont revenus, elle et son papa, au Dahomey, le papa s'est converti à l'islam et elle aussi est devenue Fatima.
Bon, disons que géographiquement, vous avez les Aguda du Bénin. Vous avez les Aguda du Togo. Vous avez les Aguda du Nigeria. Géographiquement. Historiquement, il y a eu plusieurs vagues. Parce qu'il s'agit d'anciens esclaves affranchis qui sont venus par vagues successives.
Par millions, ils avaient été vendus et réduits à l'esclavage aux Amériques et aux Antilles, coupés méthodiquement de leurs racines. Plusieurs siècles après le début de l'odieux trafic des hommes, de ce que l'on a appelé la traite négrière, à la faveur de l'abolition au Brésil, ils ont choisi pour certains de revenir un homme libre sur leur continent, de s'y établir. Il faut préciser que ceux qui revenaient étaient rarement ceux-là même qui avaient été déportés. Ils retrouvaient la terre de leurs ancêtres, celle mythique décrite par leurs parents au fil du temps. Celle où devait automatiquement retourner leur âme, selon leur religion originelle.
Le 13 mai 1888 à Rio, après le vote du texte au Sénat, la princesse régente de l'Empire du Brésil en l'absence de l'empereur signe la loi dite d'or qui accorde la liberté immédiate et sans restriction à tous les esclaves du pays. L'abolition de l'esclavage au Brésil, dernier pays de l'Occident à s'y résoudre, met fin à l'esclavage dans les Amériques.
L'esclavage a été totalement aboli. On a dit, bon, vous allez revenir vers l'Afrique, le Libéria et tout ça. Ils vont s'installer le long de la côte.
Professeur Noureni Tidiani Serpos, président de la Fondation panafricaine pour le développement culturel.
Le Nigeria, ils vont s'installer au Bénin, ils vont s'installer au Togo, au Ghana, etc.
Pour ceux qui sont venus initialement.
Professeur Honora Agessi, sociologue et directeur fondateur de l'Institut de développement et d'échanges endogènes.
C'est de Ouida qu'ils ont débarqué. Avec l'histoire, certains se sont déportés vers Agué et d'autres vers Porto-Novo.
Parmi les retournados, il y avait des musulmans.
Alexis Adande, professeur d'archéologie et d'histoire à la retraite.
Il y avait des chrétiens, bien sûr, et il y avait aussi des pratiquants du candomblé.
C'est que lorsque les premiers sont arrivés...
Karim Urbain da Silva, fondateur du musée da Silva à Porto Novo.
On les aurait emprisonnés en Afrique à leur retour, parce qu'ils n'étaient pas acceptés au départ.
Les anciens esclaves revenus doivent trouver leur place dans cette société qui ne les accepte pas toujours. Ils sont à la fois ceux qui ont déjà été expulsés, vendus comme esclaves, et les étrangers. Surtout que ceux qui reviennent sont différents avec des manières de blanc. La construction d'une nouvelle identité sociale à partir de la mémoire du temps vécu au Brésil va être pour eux le moyen de s'insérer dans cette société à la même place déjà accordée aux blancs.
Il fallait, puisqu'ils sont noirs,
Karim Urbain da Silva.
Il fallait trouver une appellation. Enti Ndelong, Enti Elotiebo, Aguda, Teloko Salté, Eri Tonde. Donc cela veut dire que quoi ? En Yoruba, vous qui êtes revenu, vous avez ramené toutes les saletés de l'au-delà que vous nous ramenez ici.
Ces anciens esclaves affranchis, très diversement accueillis, vont rapidement pour certains, pour ceux qui sont revenus avec une fortune de baïa, participer dans un premier temps à leur tour au trafic des esclaves vers le Brésil notamment.
Les Aguda, quand ils sont revenus...
Luc Nyakadja, ancien ministre béninois.
Et ça... Peu de gens aiment parler de ça. Hein. Quand ils sont revenus, eux aussi, ils ont pratiqué le commerce, donc ils ont été victimes. Ils en ont été intermédiaires, donc ils ont été impliqués dans cette transaction-là.
Certains l'ont fait, parce que, bon, on n'a vu que le profit. Non, ce n'est pas d'aujourd'hui le profit.
Jérôme Carlos, journaliste, directeur de Cap FM, une des principales radios privées de Cotonou, au Bénin.
Le profit a été de tous les âges, en quelque sorte. Et c'est ça l'immense contradiction. Que des gens qui ont souffert dans leur corps, dans leur cœur, de l'esclavage, en viennent à devenir à leur tour des négriers.
Il faut dire que les affranchis se sont installés auprès des négriers. Ils sont désormais alliés.
Ce sont les négriers plutôt.
Karim Urbain da Silva.
Qui vont vers eux. Puis les négriers sont revenus.
Des négriers qui n'étaient pas forcément tous partis du Portugal, mais qui arrivaient aussi du Brésil. Le plus célèbre d'entre eux est Francisco Félix de Souza. Un métis né à Bahia, de père portugais et de mère amérindienne, arrivé sur les côtes africaines au XVIIIe siècle pour développer son sinistre commerce des esclaves.
L'histoire de Souza, ça a pris d'ampleur sous le règne du roi Gezo.
Sa Majesté Dejalani Agoli Agbo, roi d'Abomé.
Parce que avant que le roi Gezo ne soit intronisé, il était déjà ami à Don Francisco Tchatcha de Souza. Donc c'est cette amitié qui a continué jusqu'à ce que le roi a fait des sacs, a reçu des sacs. Et cette amitié s'est fortifiée davantage parce que c'est de Souza qui a aidé les nôtres à retrouver la mère de Gezo, qui entre-temps avait été déjà vendue. Hein, d'abord au Nigeria et après on l'a retrouvé au Ghana. Et c'est grâce à cette recherche de Souza. Et c'est après ça que le roi de Dahomey l'a fait vice-président en sorte.
Vice-roi. Francisco Félix de Souza se sentant particulièrement puissant et de tous les coups. Il va même participer très activement au coup d'État contre le roi Adandoza du Dahomey, qui était opposé à la traite négrière, le prédécesseur du roi Gbezo.
Et le roi Adandoza a été très clair par rapport à ça.
Gabin Djimas, directeur de l'office de tourisme d'Abomey.
C'est ça qui a fait que de Souza a tout fait pour que ses frères le chassent du pouvoir. Il dit mais, qu'il a appris que là-bas, c'est pour aller travailler la terre. C'est pour travailler, il y a plein d'espace ici à enblaver. Il dit, mais si vous faites ça, vous n'aurez plus de produits importés. Il dit, les produits importés, pourquoi ne pas construire ici les usines? On lui répond qu'il n'a pas d'hommes qualifiés pour travailler dans ces fabriques. Il dit, il en a, et on a sélectionné, confié à de Souza, qui les a vendus gracieusement. Et c'est ça qui a fait qu'il l'a fait emprisonner ici. On ne lui fait pas ça, lui. Il n'est pas comme les autres, hein.
Avec le roi Gbezo, Francisco de Souza va contribuer au renversement d'Adandoza et va naturellement prendre un peu plus de pouvoir, puisqu'il va même devenir le vice-roi, comme on le mentionnait tantôt. Il est le véritable patron à Ouida, où il est installé.
Tchatcha,
roi d'Agbo Unon Una II, chef suprême du Vaudou.
Félix de Souza. Quand je le prends, c'est quelqu'un qui était ici et à un moment donné au cours de l'histoire, est devenu vice-roi du Dahomey. Et quand on dit roi en ce moment-là, c'est lui qui a autorité sur tout ce qui se passe.
De Souza,
Sa Majesté Dejalani Agoli Agbo, roi d'Abomey.
Pour les Abomeyens que nous sommes, n'a pas participé en tant que, comme vous le dites, à ce commerce triangulaire. Il s'est servi au nom d'interprète. Parce que, étant analphabète, nous ne pouvons pas discuter directement avec les Européens. Il faut quelqu'un, il y a pas seulement que Souza, il y a les bureaux et autres. Bon, ils se sont servis d'intermédiaires pour entre le roi ou bien les différents rois qui sont passés sur le trône et pour nous expliquer en tant qu'analphabète ce que le blanc dit. Et nous, quand on dit, il le traduit.
Roi d'Agbo Unon Una II, chef suprême du Vaudou.
Si nous prenons typiquement Ouida, Tchatcha était le grand patriarche, le grand dignitaire, le grand responsable de la divinité Tan, où il a sur lui un certain nombre de couvents. À partir de cette divinité que nous appelons habituellement Dagoun. Et on dit chez nous, dans Honto, Tenele. Donc, les 9 branches de la divinité Dan, qui est serpent. Donc, sous lui.
Francisco de Souza va vivre à Ouida, et en plus de son importante descendance, de ses nombreux mariages, il va obtenir une reconnaissance locale spectaculaire.
Il était donc coopté dans la hiérarchie Vaudon, Aouida.
Selon l'histoire, il avait jusqu'à 100 bateaux.
Luc Nyakadja, architecte, homme politique béninois.
Donc, que ce soit pour transporter des esclaves ou pour transporter après des fûts de palme ou de produits issus de palmiers à huile, c'est facile à faire.
Francisco Félix de Souza va passer un pacte de sang avec le roi Bouezo qui va le consacrer vice-roi du Dahomey et va vivre et régner sur la ville de Ouida. À sa mort le mardi 8 mai 1849, à l'âge de 94 ans, le roi Bouezo va envoyer deux de ses fils à Ouida à la tête d'un détachement de 80 Amazones pour accomplir les rites traditionnels, ce qui illustre son importance dans le royaume. Le roi va aussi donner 51 pagnes du pays à la famille et 7 personnes pour être sacrifiées à son honneur. Heureusement, Isidoro, le fils aîné et successeur, futur Tchatcha II, va refuser le sacrifice en alléguant que son père était blanc. Un négrier ainsi honoré par le roi, dont la descendance va bénéficier d'un statut spécial au cours des siècles qui vont suivre.
Donc les liens sont toujours solides.
Roi Dagbo Unan Una II, chef suprême du Vaudou.
Et chaque fois que un Souza arrive sur le trône de Souza, comme nous le faisons ici à Abomey, cette amitié reprend de plus belle.
Les descendants de Souza eux-mêmes ne se considèrent pas comme les autres.
Gabin Djimas, directeur de l'office de tourisme d'Abomey.
Ils estiment qu'ils sont au-dessus de tout le reste. Quand on parle d'Agouda, ils ne s'appellent même pas Agouda. Ils s'appellent directement Brésiliens. Eux, ils sont Brésiliens de souche, ils estiment. Quand bien même il y en a qui sont plus noirs que moi.
Je ne suis pas ni fière ni gênée.
Francisca de Medeiros Patterson, petite fille de Francisco de Souza.
Il a fait comme tout le monde. On est nés ici.
On n'a pas à défendre.
Gabin Djimas, directeur de l'office de tourisme d'Abomey.
Maintenant, on n'a qu'à assumer, c'est tout. Il ne faut pas être fier d'être vendeur, mais il faut l'assumer.
Il va falloir leur expliquer parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Qui a vendu qui ?
Francisca de Medeiros Patterson.
Ce sont leurs ancêtres qui ont vendu. Ceux qui sont venus, qui ont acheté des esclaves, n'ont pas été faire la guerre aux autres pour les envoyer, pour les vendre. Il y a eu des vendeurs, il y a eu des acheteurs. Donc, nous sommes tous confondus.
Quand la famille de Souza dit, par exemple, nous n'avons pas été impliqués.
Luc Nyakadja, architecte béninois.
Je ne pense pas que c'est ce que l'histoire nous démontre. Donc, parlons de l'histoire. Parlons des faits historiques. Mettons-les sur la table. Faisons des expositions de ça. Enseignons ça à l'école. La négation de l'histoire n'a jamais fait du bien à un peuple. Jamais. Et ça nourrit des rancœurs dont on finit même par oublier les raisons d'être.
C'est paradoxal parce que avec tout ce passé, c'est pas normal.
Gabin Djimas, directeur de l'office de tourisme d'Abomey.
On continue de privilégier exclusivement les relations avec la descendance de Souza. Ça doit être tout l'ensemble, tout confondu. Mais malheureusement, avec tout le pouvoir exercé par de Souza dans le passé, ce pouvoir continue d'avoir des influences dans le quotidien. Et même à Ouida.
Autre personnage, autre négrier qui va connaître la fortune et le pouvoir dans le même cadre. Joaquim d'Almeida. Un noir d'ethnie Maï, né au Dahomey, déporté puis retourné en Afrique, qui va s'établir à Agoué. Il faut préciser que ce n'est pas la majorité des affranchis revenus sur la terre de leurs ancêtres qui va s'adonner à la traite négrière. Beaucoup de ces Brésiliens aspirent simplement à retrouver leur terre natale pour s'y établir. Ce mouvement retour va être amplifié par un autre événement majeur, la révolte d'esclaves musulmans à Bahia, la plus grande et la plus sanglante insurrection d'esclaves musulmans au Brésil, qui va pousser le gouvernement à déporter les inculpés et les Africains affranchis considérés comme suspects. Le président de la province de Bahia va demander, je cite, « de faire sortir du territoire brésilien tous les Africains libérés, dangereux pour notre tranquillité. Les individus n'étant pas nés au Brésil, ayant une langue, une religion et des coutumes différentes, et s'étant montrés ennemis de notre tranquillité au cours des derniers événements, ne doivent pas jouir des garanties offertes par la Constitution aux seuls citoyens brésiliens. C'est donc en grand nombre qu'ils arrivent sur les côtes de l'or. Parfois poussés donc par les mesures gouvernementales, parfois pour des raisons personnelles ou économiques, comme l'arrivée sur le marché brésilien de milliers d'Africains libres.
On avait déjà tué beaucoup d'entre eux après une révolte.
la révolte de 1835.
Karim Urbain da Silva, président du Conseil des sages de la ville de Porto Novo.
Et on a demandé d'arrêter d'abord. Et pendant qu'un bâton écrier devait démarrer, on a dit, mais voilà ceux qui attendent d'être tués, ils sont condamnés à mort. Prenez-les, si peu vous êtes utile. Quand vous aurez fini de les servir d'eux, quand vous voyez la lueur que vous arrivez vers un port, larguez-les aux requins. Ils ont entendu, ils ont capté. Donc ils se sont mis à surveiller, à veiller, Quand ils ont vu apparaître d'abord des lumières dans la forêt, nous approchons. Ils sont donc fermés, mais des poids pour que les capitaines et consorts ne remontent pas. Ils ont pris les pirogues, les canots qui étaient là. Ils sont tombés en bas, ils sont partis. Ils ont donc échoué à Oni. C'était la gauche qui s'appelait Oni à l'époque. Ils ont débarqué à Oni. Et que faire? Les premiers accueillis, celui qui était parti à l'âge de 14 ans. Il parlait encore la langue yoruba. Il s'exprimait bien. Il a expliqué tout les déconvenues, tout ce qu'ils ont eu à souffrir. Et on a dit, bon, c'est ça. Qu'avez-vous appris? Ah non, nous sommes de bons ouvriers. Ils ont commencé là par construire les tombes au cimetière. Quand les gens ont vu, ça les a beaucoup plu. Ils ont commencé à construire des pierres, donc ils prenaient de l'argent.
Le plus grand nombre de ces affranchis d'origine diverse va s'installer majoritairement dans la région constituée par le Bénin, le Togo et le Nigeria. Une bonne partie dans les vieilles villes de Ouida et de Porto Novo. Ces affranchis qui débarquent ont un réel avantage sur le reste de la population autochtone. Ils ont appris des métiers. Ce sont essentiellement des ouvriers spécialisés dans les domaines de la production des biens, de la construction, de la menuiserie et de l'agriculture.
En agriculture, c'était des vaillants cultivateurs.
Karim Urbain da Silva.
Ce sont les meilleurs charpentiers, artisans, maçons. D'abord, quand la France, après la colonisation, la France s'est servie d'eux. La France n'a pas amené d'ouvriers ici, du tout. Ce sont les Agoulas, les ouvriers à Agoula, qui ont conçu, par exemple, les vieilles maisons françaises que vous voyez à côté.
La grande majorité des corps de métier au Dahomey.
Professeur Aminu Taofiki, ancien vice-recteur de l'Université nationale d'Abomey-Calavi.
Était tenu par des Agoulas. Le menuisier, le maçon, l'électricien, le mécanicien, etc. Même le barbier, parce qu'il y a une famille toute proche de Paraiso, qui s'appelle Bambero. Donc c'est le barbier, je crois bien, en portugais ou en espagnol. Bon, mais tout le monde ne comprend pas. Donc cette famille-là, bon, elle s'appelle Bambero. Puis c'est tout.
Comment ces Bambero, Montero, Donacimento, Carlos et autres da Silva vont-ils se faire une place dans la société dahoméenne qui les regarde avec une certaine méfiance? Comment ces ouvriers qualifiés noirs aux manières de blancs qui commercent et travaillent avec les négriers vont-ils trouver leur place dans ce territoire qu'ils ont choisi comme terre de retour? On en parle la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale à Gouda. Histoire singulière encore très vivace dans la société béninoise. Mais évidemment, en attendant, vous pouvez naturellement réécouter ces deux premières parties sur le site de RFI à la rubrique « Les émissions » ou encore sur le site archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Restez à l'écoute de Radio France Internationale. À très vite.